Bonjour à toutes et à tous, je suis Édouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perpamapage, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous adorez ou que vous allez découvrir. Cette semaine, je reçois une écorchée vive, une artiste capable de vous faire danser comme personne sur des peines de cœur. Je sais qu'il existe des peines heureuses et des joies tristes. Voilà ce que chante Marie-Flore dans son très réussi deuxième album intitulé « Je sais pas si ça va ». Est-ce qu'on est sûr d'ailleurs que ça va ? C'est un peu la question que se pose Marie-Flore sans jamais se mettre la pression pour répondre. Avec beaucoup d'humour et de mordant, mon invité va à l'encontre de l'injonction au bonheur que la société nous impose parfois et accepte la vie avec ses joies et surtout ses peines. Résultat, un album carrément lumineux et vous allez le voir, Marie-Flore a choisi des livres qui lui ressemblent, électriques et bien loin de la norme. Un épisode de Perpamapage qui fait du bien. Alors c'est parti pour l'épisode 30, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Flore.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast de Perpamapage, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Je vais juste te rappeler en deux mots le principe du podcast. Tu m'as même donné quatre titres.
Ouais.
On peut parler que trois, quatre, on est libre. De livres qui t'ont marqué, que tu as beaucoup aimé. On va en parler pendant une trentaine de minutes et tu vas juste m'expliquer pourquoi ces livres t'ont marqué, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté et tu vas me donner aussi envie de les lire, ça sera super. Et à ceux qui nous écoutent aussi.
J'espère.
Ouais, on va voir si tu réussis ou pas. Tu veux commencer par lequel ? Tu m'as donné Présente de Lorraine Bastide.
Ouais.
Je trouve ça chouette de commencer par celui-là. Ouais.
Alors, Honneur aux femmes.
Ouais. Lorraine Bastide, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est la créatrice du podcast La Poudre, qui est un podcast qui est écouté par quelques millions de personnes seulement, tout petit podcast. Et elle a écrit donc cet essai, on va dire plutôt, Présente, qui est sous-titré « Ville, médias, politique, quelle place pour les femmes ?»
C'est ça.
Comment tu l'as découvert, toi, Salut ?
Je crois que c'est un livre qu'on m'a offert.
Ouais.
Une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je connaissais assez peu le podcast et assez peu le personnage. Et du coup, je suis rentrée dans l'univers de Lorraine Bastide par le livre. Et j'ai trouvé que c'était un livre assez intéressant parce qu'il soulève beaucoup de questions qui ont attrait au féminisme et à la place de la femme dans la société. Et notamment, c'est un livre qui m'a un peu bouleversée, je dirais, parce que il a fait que je me suis posé beaucoup de questions, de choses que je n'avais pas remis en cause ou interrogées. Et c'est là où je trouve que ce livre est très fort, parce qu'il invite vraiment à s'interroger sur la place des femmes dans la société, dans l'espace public notamment.
Comme quoi, par exemple, est-ce que tu as un exemple qui te vient ? Parce que ce qu'elle écrit, c'est elle dit ce qu'il y a de plus redoutable dans l'invisibilisation des femmes, c'est qu'elle est invisible. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, c'est un livre que je pense que les hommes aussi devraient lire.
Oui, je pense que tout le monde devrait le lire, effectivement, parce que déjà, c'est extrêmement bien documenté, donc c'est ultra référencé, donc il n'y a pas possibilité de contrer forcément ce qu'elle dit, puisque y a beaucoup de choses qui sortent d'études, de constats réalisés dans le dur, dans la réalité. Et notamment, y a un truc en particulier qui m'a assez...
Frappée,
exactement, c'est la place de la femme dans l'espace urbain et public.
Ouais.
Et c'est vrai que en lisant, je me suis rendu compte que en tant que femme, on était quand même beaucoup habituées ou en tout cas conseillées de moins habiter justement cet espace public, les rues, les bancs publics, les murs sur lesquels on pourrait éventuellement poser un pied et juste squatter. Et en fait, c'est vrai que ça m'a vachement frappée parce que ça résonnait dans l'éducation que j'ai reçue et puis dans des mécanismes tout simplement de survie, c'est peut-être un peu fort, mais qu'on peut mettre en place en tant que fille qui se déplace. Et elle a notamment cette phrase qui dit quand on est une femme, on se déplace d'un point A à un point B quand on sort, on sort jamais ou très rarement sans savoir où aller.
Ouais.
Et donc cette flânerie et le fait de flâner, c'est vrai que du coup ça m'a frappée. Je me suis dit c'est vrai qu'on s'autorise assez peu finalement à juste flâner, à traîner.
Ouais. Ce qu'elle explique, d'ailleurs tu parlais de la présence dans l'urbain, mais c'est que seulement 4% des noms de rue sont des noms de femmes.
Il y a aussi ça, effectivement.
Et tu sais, on dit souvent, le féminisme, ça peut être une posture un petit peu, ça peut être quelque chose qu'on te demande d'être ou...
Mm-hmm. Après moi, j'ai pas de conseils vraiment à donner sur est-ce que tout le monde doit l'être. Je pense que... on doit aller vers ça de toute manière. Après, en étant femme, je pense qu'on l'est, c'est un peu inné chez nous, quoi, parce que on bénéficie d'acquis qui ont été gagnés au cours de luttes précédentes. Donc c'est aussi important de s'en rappeler. Et après, c'est vrai qu'on traverse là une époque qui est la libération de la parole, etc., dans tous les milieux, qui fait que forcément, on est quand même un peu plus aujourd'hui, je dirais, concerné par la question. Là où c'est vrai qu'il y a, je sais pas, quand j'étais adolescente, par exemple, c'était pas du tout des questions qu'on se posait, quoi, tu vois. Même moi qui ai toujours été, consciente, tu vois, mais plus sur un point de vue global, quoi, de, je sais pas, les trucs sociaux, de pauvreté, les luttes à mener, etc. C'est vrai que la question de la femme, finalement, je trouve, niveau grand public, elle est très très récente, je trouve.
Et dans la musique, qu'est-ce que t'en penses ? Parce qu'on dit souvent que, surtout ces derniers temps, on a dit que la place de la femme dans la musique n'était pas toujours évidente, qu'il y a beaucoup de chanteuses qui ont pris position aussi un peu pour ça. Est-ce que tu trouves que ça bouge, en tout cas, là-dessus ?
Non. Je dirais que j'ai l'impression que c'est un mouvement de surface plutôt, dans le sens où c'est vrai qu'il y a la libération de la parole et c'est super. Après, j'ai pas l'impression vraiment que dans le fond les choses changent vraiment, parce que je pense que c'est un mouvement global, quoi, qui a pas attrait que au milieu spécifique de la musique, du cinéma, etc. Je pense que quel que soit le milieu dans lequel tu travailles, tu peux rencontrer des soucis du machisme, du sexisme, des abus de tout genre. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être lié à l'éducation et refaire un petit peu tout ce chemin avec l'aide des hommes, quoi, forcément.
Ouais. Mais c'est un peu ce qu'elle explique dans son livre, en fait. Et quand tu dis que c'est très documenté, c'est vrai que c'est vraiment basé que sur des faits, la place de la femme dans la société, qu'il faut comptabiliser aussi le nombre de femmes. Je trouve que c'est intéressant de lire ce genre d'ouvrage, comme il faudrait lire aussi justement Virginie Despentes, qui écrit King Kong Theory et qui va à fond. D'ailleurs, le livre là, de Lorraine Bastide, il se conclut sur une citation de Virginie Despentes qui avait fait une tribune dans Libération.
Rappelle-la-moi.
Qui avait dit « C'est terminé, on se lève, on se casse, on gueule et on vous emmerde
».
Je trouve ça assez fort.
Il y en a qui arrivent à le faire. Et après, moi, je pense... aussi et surtout à toutes les personnes qui ne peuvent pas encore le faire, parce que en fait la réalité, c'est que il y a une libération de la parole, mais qui reste quand même très réduite, je trouve. C'est pas c'est pas encore un mouvement, comme je t'ai dit, global, une lame de fond, quoi.
Ouais. En parlant de libération de la parole, on va parler un peu de ton album aussi, quand même.
Si tu veux.
Ce serait bien. On va écouter aussi un titre. On va écouter le premier single qui est sorti, qui s'appelle Mal barré. Est-ce que tu peux me raconter comment il s'est créé, ce titre ?
Il s'est créé un peu sur une erreur, je dirais.
Ok, ça commence bien.
Il porte bien son nom. En fait, j'étais un peu en panne d'inspiration à cette époque-là, parce que c'était post-Covid, enfin même pendant le Covid, on va dire. Et j'arrivais pas à trouver la porte d'entrée là, dans mon disque, en fait. Et donc je galérais vraiment à écrire. Et j'étais en studio et donc j'avais cette ligne de basse qui tournait un petit peu en boucle comme ça. Et donc je me suis dit, c'est mal barré à moi-même, je pars me faire un café. Bon, et j'ai dit tout ça en musique, en studio, quoi, en enregistrant, et je suis allée prendre mon café. Et je suis revenue et j'ai réécouté donc ce fameux « C'est mal barré ». On entre comme ça dans la chanson et je me suis dit « Ah, mais c'est top, je garde ça, quoi. J'ai
ça
le... voilà, j'ai le thème. » Et du coup, j'ai filé la métaphore sur tout le reste de la chanson, en parlant d'une histoire d'amour qui se termine, où on sent, quand on sent un peu que ça commence à capoter, quoi. Mais qu'on sait aussi, je voulais que ça soit un peu lumineux. On sait toujours qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, en tout cas j'espère.
C'est souvent ça un peu dans tes titres aussi, quand même, hein, des histoires d'amour.
C'est uniquement...
Qui peuvent être compliquées quand même.
Ouais, c'est uniquement ça. C'est vrai que pour moi, l'amour, c'est vraiment un sujet fondamental, quoi. Et je me vois pas forcément écrire sur beaucoup d'autres choses. Je trouve que ce qui est quand même le plus passionnant dans la vie, c'est le rapport qu'on a aux autres. Et, voilà.
C'est mal barré, oh chérie. Je te resserre un café. Il est un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. C'est pas compliqué, oh chérie. Peut-être me suis-je emballée. C'est juste lui qui s'emballait. Ou moi qui me suis fait des idées. Et lui simplement désirait. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour. Il a juste pris un détour.
On continue avec un deuxième titre que tu m'as donné qui s'appelle Sans alcool, ouais, de Claire Touzard. Et Claire Touzard, elle est donc journaliste et c'est une ancienne alcoolique.
Ouais.
Et elle en parle justement, elle parle de son combat contre l'addiction, mm-hmm, et tout ce qui l'a poussé en fait à tomber dans ce travers-là. Elle en parle vraiment de manière très libre et très crue. Qu'est-ce, mm-hmm, qu'est-ce qui t'a frappé toi dans cette ouvrage?
Je dirais la justesse déjà de son témoignage, l'honnêteté, quoi, parce qu'il y a vraiment un truc de mise à nu qui est très très fort. Et aussi parce que ça a pas mal résonné chez moi, parce que c'est comme Lorraine Bastide, en fait, je trouve qu'elles, toutes les deux, elles interrogent vraiment ce qui est genre dans la normalité, je dirais, quoi. Et du coup, son rapport à l'alcool, là où voilà, elle l'a vécu entre guillemets comme une normalité pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était un problème en fait, et que y avait quand même beaucoup de choses qui poussaient voilà une consommation excessive. Et je trouve ça assez intéressant en fait d'interroger le rapport qu'on a avec ça. Et aussi son livre est beaucoup aussi sur la question de la femme, quoi, enfin de l'alcoolisme, ouais, aussi chez, ouais, la femme, de comment l'éducation peut ou pas nous pousser vers ça, quoi.
J'ai dit un peu des interviews d'elle où justement elle en parlait, parce que elle disait qu'une de ses amies lui avait demandé est-ce qu'il existe un alcoolisme au féminin, et en fait elle répondait: l'alcool au fond c'est se salir, se noyer, s'écraser, et je ne dirais pas que ce manque d'estime de soi est féminin, mais vu ce que les femmes subissent, il est dur pour elles de bâtir une bonne image de soi.
Ouais.
Et c'est vrai que j'avais jamais pris le problème dans ce sens-là non plus, tu vois.
C'est vrai que on parle assez peu d'alcoolisme au féminin, quoi. C'est pas un thème qui est vraiment sur le devant de la scène. Chez les femmes, d'ailleurs, c'est un alcoolisme qui est souvent soit mondain, soit caché. Parce que finalement, c'est toute la société qui fait que ça nous rend très habiles, en fait, pour jouer le jeu, rendre l'appareil et garder les apparences bien. Et c'est vrai que après, t'as, je sais pas, certainement des films ou des séries qui traitent ça avec un peu plus de légèreté, etc. Mais c'est vrai que non, en fait, c'est pas un sujet très drôle. Et je trouvais son approche, vraiment, vraiment intéressante.
C'est le thème en fait qui t'a amené à lire ce livre.
Tu l'as découvert, c'est un ami qui l'a lu, quoi, et qui me l'a conseillé. Et j'avoue, ouais, j'ai eu vraiment une révélation, quoi, limite. Du coup, je lui ai même fait un message sur Instagram en lui disant, bravo, quoi, parce que ça, enfin, quel que soit en fait le stade, si on boit un coup comme ça toutes les 3 semaines ou quoi, en fait, ça amène vraiment à se remettre en cause, quoi, sur notre rapport avec ça, quoi. Et c'est là où j'ai trouvé très forte. Et d'ailleurs, c'est un garçon qui m'a conseillé de le lire, tu vois. Donc même au-delà de, elle fait toute une analyse, tout un parallèle aussi avec le fait d'être une femme. Mais je trouve que c'est ça qui est fort dans son livre, c'est que, enfin, tout le monde peut s'y retrouver, et, ouais, même les, ouais, hommes. Et c'est des questions qui sont importantes.
des témoignages importants, effectivement. On écoute un deuxième titre de ton album.
Si tu veux.
Je sais absolument pas comment faire la transition entre l'alcoolisme dont on vient de
parler,
le titre.
Parce que, si, si, parce que je sais qu'il est tard. C'est une chanson, justement un peu fleuve, qui pourrait très bien être écrite par une femme un peu ivre et qui déblatère tout ça pendant 15 heures au téléphone, donc c'est parfait.
Comment elle t'est venue, cette chanson, comment elle s'est créée?
Comment s'est-elle créée? C'est un des premiers titres que j'ai écrit pour le disque et il était tard et j'ai commencé à... J'ai essayé de me raconter, en fait, voilà. Et donc c'est sorti tout seul, on va dire.
Ok, où tu poses la question, peut-on s'aimer en un regard? C'était ouais. ça te trompait dans la tête?
C'est une grande question.
Est-ce que tu as trouvé la réponse?
J'ai toujours pas la réponse.
Allez, on écoute, je sais qu'il est tard.
Je sais qu'il est tard, mais dis-moi, je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir, peut-on s'aimer en un regard? Car sauf erreur de ma part, j'aimerais beaucoup te revoir. Parfois la vie se complique, y'a les premières secousses puis les répliques. Des pistes rouges un peu techniques, puis y'a nous deux qui sommes trop identiques. C'est qu'il est tard, mais pour moi c'est du boulot de faire ce que je dis, mais pas ce qu'il faut. D'être légère, mais peser mes mains. Ce soir, ils ont quelques kilos en trop. Et je sais qu'il est tard, mais dis-moi, je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir, peut-on s'aimer en un regard? Car sauf erreur de ma part, j'aimerais beaucoup te revoir. Et j'en vois qui se marrent, et d'autres qui pleurent à coups de haut.
Passer donc au dernier livre que tu m'as donné.
Ouais.
Que j'ai là, qui est un immense
pavé
de
bon.
660 pages.
Ouais.
L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Ouais. Je suis pas sûr de la
prononciation.
Je suis pas sûr de la prononciation du nom, mais c'est pas grave. Donc ce livre, l'histoire de cette jeune fille Modesta là qui. Qui est une histoire quand même pas évidente, qui est pleine d'embûches. Mais c'est marrant parce que du coup, tes trois livres sont quand même assez liés
j'ai pas
uns
du
aux
tout
autres.
Calculé.
C'est trois destins, ouais. Trois femmes qui racontent des histoires très fortes. Ça se passe en Sicile. C'est un roman d'initiation de cette jeune femme qui, dès le début de sa vie, va naître dans un milieu assez rustre, on va dire. Va connaître l'amour charnel, le viol aussi très vite. Donc deux relations physiques très, très importantes. C'est vrai que c'est un roman qui est pas hyper connu et pourtant qui est vraiment, je trouve, qui est magnifique. En tout cas, qui est super beau. Qu'est-ce qui t'a Comment tu l'as découvert, toi d'ailleurs, ça m'intéresse.
C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Tu vois, c'est que des gens qui m'offrent des
cool,
livres.
C'est cool, t'as des amis sympas.
Voilà. elle l'avait lu et j'imagine que voilà, ça a dû la faire bouger intérieurement. Et déjà, bon, ça m'a fait beaucoup rire parce que. Ne serait-ce que par le titre, je lui ai dit c'est bien trouvé avec moi parce que voilà, je suis une experte hein, dans la joie. Et plus sérieusement, c'est vrai que en fait j'ai trouvé que c'était un récit d'émancipation en fait assez dingue parce que effectivement comme tu dis, elle commence sa vie dans une sorte de maison dans la pauvreté la plus totale avec des hommes pas très bien, une mère aussi assez dure et en fait c'est tout ce parcours de vie un peu initiatique où en fait elle va être à contre-courant, où qu'elle soit.
Ouais.
Et assez aventureuse, et voilà, et c'est un roman aussi quelque part, je trouve, assez charnel, quoi, sur l'éducation sexuelle, ou enfin les premiers ressentis que tu peux avoir en tant que femme, qui sont en tout cas dans le livre, tu vois, ils auraient pu à l'époque être considéré comme déviant, tu vois, limite, quoi.
Ouais,
parce que... et donc voilà, donc non, et puis je voilà, j'aime ce personnage, j'aime j'aime le
la fougue un peu du personnage,
ouais,
aussi.
Et puis voilà, enfin son évolution, comment elle arrive à se débrouiller et à transformer les choses, quoi.
Ce qui est génial, c'est que dans tout le livre, elle va être confrontée à plein de choses, à l'emprise de l'Église, le fait d'assumer même une bisexualité, elle en parle vachement, etc. Le communisme, et c'est plein d'étapes, et à chaque fois c'est cette femme qui se retrouve toujours confrontée à ça, et qui va passer les barrières un peu les unes après les autres, tout en gardant un truc sur l'art de la joie, quoi. C'est le fait d'y aller à fond, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'elle est assez impressionnante pour ça. Et je trouve que c'est une bonne leçon, quoi, en tout cas de, je dirais pas de transfuge de classe, tu vois, mais dans le sens où elle arrive à traverser tout ce qu'on lui impose, là d'où elle vient, et qu'à la fois la vie lui met dans les pattes à chaque fois des trucs pas possibles, desquels elle arrive à se sortir, en fait, et elle se débrouille plutôt bien. Donc ouais, c'est un personnage intéressant.
Pourquoi tu disais l'art de la joie, ça te correspond Tu te considères pas comme une personne joyeuse?
Par moments, si, mais disons que je me considère dans une sorte de flux constant, tu vois, avec des hauts puis des bas. Et après, c'est vrai que je suis moins dans cette culture, tu vois, de la joie intensive, quoi. J'ai un peu un rejet, mais je dirais que j'aime pas trop qu'on me dise déjà ce que je dois faire, comment je dois penser, comment je dois être, et j'aime pas
contre-courant de l'époque des réseaux sociaux, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc il faut dire que tout va bien, que notre vie est formidable, exposer le meilleur, et puis bon, en fait on sait que dans les coulisses toute vie comporte voilà son lot de bonnes et de mauvaises choses. Donc c'est vrai que ces injonctions un peu permanentes me fatiguent. Et du coup voilà, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire ce titre, quoi, parce que j'ai pris ça aussi comme un petit pic quelque part.
Et dans ta musique, tu te sens comment? Parce que ta musique, c'est vrai qu'elle raconte des choses qui sont souvent tristes, mais parfois elle les raconte avec beaucoup de, un peu la manière de Modesta, tu vois, d'énergie avec, et de...
Ouais, de la force, je dirais. Bah, c'est aussi une manière de reprendre la parole sur soi, quoi, d'écrire des chansons d'amour particulièrement. Moi, c'est vrai que faire de la musique, ça fragilise beaucoup, mais ça donne aussi beaucoup de force, quoi. C'est-à-dire que quand on est content de soi et qu'on réussit à écrire un titre qui nous plaît, qui veut dire quelque chose pour nous et qui potentiellement peut raconter des choses aux autres, ça fait du bien, ça renforce. Voilà, jamais pour très longtemps, mais du coup, voilà, c'est un flot constant comme ça de réassurance, donc c'est pas mal.
Pour terminer, j'ai deux choses à te faire faire. J'ai te faire
un
questionnaire de Pivot, un pas de danse. En podcast, je trouvais que c'était intéressant. Un questionnaire de Pivot que Bernard Pivot, qui est un questionnaire de Proust, en fait, que Bernard Pivot faisait dans son émission. Je sais pas si tu te souviens, t'inquiète pas, il n'y a pas de...
Non, je suis pas aussi vieille que ça. Mais...
Tu peux dire... Moi, oui.
Je sais pas si tu te souviens.
Ta Madeleine de Proust.
Les falaises en Bretagne.
Ok. Le plus bel endroit que tu as vu dans ta vie?
Isla de Mujeres, Mexique.
Ta shame song favorite?
Bonne question, shame song favorite. Je sais pas, je dirais... non, je sais pas.
Tu sais pas, t'as pas
si,
de titre
non, mais parce que je me dis merde, il faut que je réponde du tac au tac.
Non, t'inquiète.
Beautiful Life de Ace of Base. It's a beautiful life.
C'est classique, c'est pas du tout une shame song. On adore cette chanson.
Sorry.
La matière que tu as détesté étudier?
L'histoire, alors tout ce qui est grec, égypte ancienne, j'ai un rejet total.
La matière que tu as adoré étudier?
Le droit constitutionnel.
Ah ouais, ok. Mmh. Ton insulte favorite?
Nique-toi.
Ta drogue favorite?
La cigarette.
Si tu étais une ville?
Je serais, de manière très prétentieuse, Venise.
Tranquille. C'est joli.
Au moins, c'est mignon. On se permet.
Et le métier que tu aurais adoré faire?
Quand j'étais petite, c'était sage-femme.
Ok, joli. Et pour finir, j'ai pour habitude d'offrir un livre à l'invité, à mon invité. Je voulais t'offrir aujourd'hui, c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de Sophie Fontanelle, et je trouvais que ça répondait pas mal avec les livres que tu m'avais donnés. Sophie Fontanelle, c'est une personnalité qu'on connaît bien, et qui justement dit que revendique la liberté de la femme un petit peu dans tout ce qu'elle a. Et elle a écrit Capitale de la douceur, j'adore ce titre.
Ça ferait une bonne chanson.
Ça ferait une belle chanson, ouais. Où en fait elle arrive sur l'île du Levant. Alors c'est un roman qui est écrit comme un poème, tu vois, c'est une succession de petits poèmes. Et elle arrive sur l'île du Levant, qui est une île naturiste, qui est occupée à 5% par des naturistes et 95% c'est l'armée qui est sur l'île.
Un bon mélange, donc.
Et elle arrive, ouais, un mélange complètement détonnant. Et elle arrive là-bas, elle est accueillie par un gars en paréo, mais qui lui explique que la nudité est la norme. Et en fait, dès le lendemain, elle va se mettre complètement à nu. Et cette mise à nu va l'obliger à comprendre, tu vois, à
son
enlever des couches
elle-même.
Successives d'elle-même, mmh. Et à en comprendre qui elle est et pourquoi elle est là. Et son rapport à la violence du monde, etc. Donc c'est un très joli livre, tu vas voir, ça se lit très vite. Et
très bien, et bien à poil. Hein.
À poil, à voilà, on termine comme ça. Merci beaucoup Marie-Claire.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cet échange vous a plu, et surtout j'espère que ça vous a donné de super idées de lecture. Perfa ma page est disponible toutes les semaines sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas à noter aussi l'épisode sur votre application ou à le partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, et d'ici là, très bonne lecture.